Et très bientôt midi. On commence avec les titres de l'actualité de ce mercredi avec vous, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Marie, et l'on débutera ce journal avec les derniers développements de cette sixième nuit consécutive de guerre ouverte entre Israël et l'Iran. On s'interrogera également sur les ambiguïtés du président américain. Va-t-il entraîner son pays dans un nouveau conflit au Moyen-Orient? Et puis on verra combien le positionnement des Européens vis-à-vis de cette guerre mériterait lui aussi quelques éclaircissements. L'actualité en France, c'est tout d'abord ce remake d'un jour sans fin pour le conclave des retraites. On tâchera par ailleurs de décrypter un partenariat totalement inédit TF1 qui débarquera sur Netflix en 2026. Et puis avec notre invité, on parlera de cette toute première édition de la semaine consacrée à la musique française.
Merci Thomas Cluzel et le retour de l'info, c'est donc à midi et demi avec le journal.
h 13h30, les midis de culture. Marie Lavory.
Il va fermer les portes du Centre Pompidou avec son exposition, une immense monographie installée dans l'espace étonnant de la Bibliothèque publique d'information. L'artiste plasticien Wolfgang Tillmans sera mon invité à partir de 13h. Et comme d'habitude, honneur d'abord à l'exercice délicat mais nécessaire de la critique. Aujourd'hui, on parle cinéma avec 28 ans plus tard, le troisième volet de la saga post-apocalyptique de Danny Boyle. Et puis, Voyage au bord de la guerre, le documentaire d'Antonin Peret-Jatko. Vous écoutez les midis de culture, comme c'est émouvant. Et je vous présente les critiques du jour. Lucille Comeau, productrice du Regard culturel, tous les matins à 8h55 sur France Culture. Bonjour.
Bonjour Marie.
Antoine Guillot, producteur de Plan Large, le samedi à 14h sur France Culture.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Allez, on commence avec la grosse sortie de la semaine. Le réalisateur britannique Danny Boyle ressuscite sa série initiée en 2002 avec 28 jours plus tard. Cette fois, nous sommes donc 28 ans plus tard. Le virus qui transformait les gens en morts-vivants fous furieux est toujours là. Et une petite communauté de survivants s'est installée sur une île pour échapper à la contamination qui ravage le continent. C'est à une famille que ce troisième opus s'intéresse, famille où la mère, jouée par Jodie Comer, vue dans Killing Eve, souffre d'une maladie qui n'a rien à voir avec l'épidémie en cours. Danny Boyle, à qui on doit entre autres Trainspotting, Slumdog Millionaire ou Steve Jobs, a déjà annoncé une suite. On commence avec quelques mots pour nous donner envie ou pas. Lucille Comeau.
C'est très ennuyeux et c'est très moche.
Antoine Guillot.
Je pourrais dire la même chose, mais je dirais aussi que c'est un film assez idiot, mais à tel point que c'en est parfois fascinant.
Ah bah ça peut être intéressant, alors on va avoir des choses à se dire, mais d'abord on va écouter la bande-annonce de 28 ans plus tard.
Il y a eu tellement de morts. Contaminés. Et non contaminés.
C'est pour ça que notre village est si précieux.
Je le trouve un peu jeune, tu sais.
Il est prêt, je t'assure.
Dès que tu auras posé le pied hors de notre île, personne ne viendra te sauver.
Look across in front of you. 28 ans plus tard de Danny Boyle. Alors, Lucille Comeau, qu'est-ce qu'il nous raconte de nouveau dans cette histoire?
Pas grand-chose, en fait. Il nous raconte pas grand-chose de nouveau. C'est un peu comme un vieux film de zombies qu'on aurait quand même déjà vu, y compris dans l'esthétique et dans même la plastique du zombie, mis dans une coque un peu sophistiquée. C'est-à-dire qu'il y a un prologue et un épilogue qui sont nettement plus intéressants que ce qui se passe au milieu, sauf que bon, ils durent pour l'un peut-être 5 minutes et pour l'autre 3 minutes 30, et qui relèvent d'une esthétique un peu punk, très violente.
À la Danny Boyle, quoi.
À la Danny Boyle, avec une espèce de substrat social. Donc en fait, on commence avec un groupe d'enfants complètement terrorisés dans une maison qui pourrait appartenir à la classe populaire ouvrière anglaise des années 80, qui regarde les Teletubbies mais en étant complètement terrifiés, et on sent que se passe quelque chose à côté qui pourrait être une grosse dispute conjugale, voire de la violence exercée par le père par la mère, sur la mère. Ça s'arrête, et puis on passe à un régime ultra numérisé, donc vraiment les couleurs sont très très vertes, très très vives. de cette histoire donc de zombies. Alors j'ai pas vu les deux opus précédents, mais si je comprends bien, ça rejoue à peu près la même histoire sans tenir vraiment compte des précédents opus. Ça se passe donc dans cette Angleterre qui est complètement isolée puisque mise en quarantaine, donc apparemment tout le reste du monde ça va. Sauf en Angleterre, où il y a des zombies.
Jusque-là, c'est normal.
Sauf en Angleterre, où il y a des zombies. Et donc, à l'intérieur même de l'Angleterre, subsistent des petites communautés qui sont revenues à un âge ancien, donc bon, ça pourrait être le 17e ou le 18e siècle, disons pré-industriel, où ils survivent avec des reliquats de leur époque précédente. En communauté, les femmes font la popote, les hommes apprennent à tirer à l'arc pour buter des zombies. Et surtout, les hommes, eux, sortent de temps en temps de cette île, rejoignent l'île principale par une espèce de système de digue qui n'est là que quand la marée est basse, et là se retrouve dans une nature, tout a été laissé à l'abandon, et là il y a des zombies. Donc, toute l'histoire tourne autour de ce personnage de Spike qui a 12 ans et dont ça va être la première sortie. Et c'est un récit d'initiation d'un petit garçon, donc le fait qu'il soit un garçon est très important, puisqu'il va sortir avec son père une première fois, et puis il va revenir, et à l'occasion de ce premier voyage, il va pas tant se rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur, il va plutôt se rendre compte, et ça pourrait être intéressant, de ce qui se passe à l'intérieur de son foyer, à savoir qu'en effet, sa mère n'est pas malade de la maladie des zombies, ce qui pourrait aussi être intéressant, mais d'une autre maladie, et que peut-être, s'il sort avec elle, et non pas avec son père, il peut la soigner. Donc il y a un deuxième voyage dans la foulée, où il va, et c'est la vraie aventure, avec sa mère, pour essayer de trouver un certain docteur qui existerait quelque part et qui est joué par Ralph Fiennes, dont l'arrivée est hallucinante. Enfin, c'est un poulet tandoori, Ralph Fiennes, littéralement. Il est chauve comme un pilon et il est entièrement orange parce qu'il est enduit d'iode. On ne comprend pas pourquoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans ce film, y compris l'analogie qui est censée tout tenir ensemble, à savoir cette analogie qui aurait pu être posée par le prologue, à savoir que ce monde dans lequel ils évoluent, qui est un monde post-apocalyptique, est en quelque sorte la radicalisation de notre contexte à nous, de notre société patriarcale et des violences masculinistes qui s'y déroulent, puisque parmi les zombies, il y a, mais je vais laisser parler Antoine parce que je pense qu'il a très envie de parler de ça, il y a des zombies particuliers qui sont les alphas et qui sont donc évidemment uniquement des hommes, qui sont deux fois plus grands, deux fois plus gros, deux fois plus rapides et deux fois plus mortels que les autres. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans la hiérarchie des zombies pourquoi ils sont apparus, mais qui sont donc le danger ultime à éviter. Donc disons que le degré symbolique est assez clair, assez transparent et en même temps complètement con. C'est-à-dire qu'il n'y a, ça n'a pas, ça ne fait pas sens.
Le côté caricatural, c'est dans un film comme ça.
Oui, mais ça pourrait. Alors, toute la question est, est-ce que ce côté caricatural qui donne lieu évidemment à un effet burlesque, ça crée du burlesque, mais je pense que ce n'est pas du tout fait exprès. Donc c'est un burlesque qui n'est pas digéré, qui n'est pas thématisé par le film, qui lui est très sérieux, qui est un film d'action qui croit faire du suspense, nous faire pleurer sur le sort de cette mère malade et sur le sort de ce petit garçon qui se retrouve tout seul. Enfin, je pense que le film ne veut pas du tout nous faire rigoler de la situation.
Alors Antoine Guillaume, vous avez trouvé ça fascinant carrément?
Oui, c'est fascinant de bêtises, mais de bêtises formelles avant tout. Mais c'est pas nouveau, c'est le problème du cinéma de Danny Boyle depuis le début, même depuis Trainspotting. C'est-à-dire c'est un cinéaste de l'effet qui fabrique des effets sans cesse, sans jamais réfléchir une seconde à ce que peut provoquer l'effet. Et c'est comme s'il s'ennuyait en fait très vite dans ce qu'il filmait. Dès qu'il fait un plan, il s'ennuie, donc il doit changer très vite, non seulement de plan. Par exemple, il y a dans ce prologue, il y a une scène hallucinante où un père curé donne une croix à son fils, il faut 5 plans pour donner la croix. C'est un geste vraiment anodin complètement, qui est surdécoupé en permanence, et c'est comme ça tout au long du film. C'est-à-dire, dès qu'il pose sa caméra quelque part, il dit « Oulala, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, vite, je vais la mettre, mais où puis-je la mettre de façon complètement incongrue ?» Donc on va la mettre dans un coin en hauteur, et puis après au ras du sol, enfin tous les endroits possibles, sans que ça ne fasse jamais sens. Ou alors on va faire des bons vieux effets provoques, par exemple on va vous vomir dessus.
Il y a des arrêts sur image sur, voilà, toutes les gerbes de sang.
Par exemple, chaque fois qu'on tue un de ces zombies, qui ne sont pas vraiment des zombies, mais ça on va y revenir, ça donne lieu à un arrêt sur image, une image très graphique comme ça, comme
une BD,
quelqu'un qui vient de la BD, quelque chose qui vient de la BD, ou du jeu vidéo, ou de on ne sait trop où. C'est-à-dire que très rapidement, on a l'œil épuisé par ce qu'on voit, et ça met tout à niveau, on se fiche absolument de tout ce qui se passe. À partir de là, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il essaye de nous raconter? Alors, il y a les analogies, effectivement, parce que la pudeur de Lucille Como a omis de préciser que ces zombies non seulement sont nus, mais que les mâles alpha, comme sont les mâles alpha, ont un sgeg énorme, qui, et d'ailleurs ils se reproduisent maintenant, il y a une scène d'accouchement de zombies complètement, là encore, qui est tellement bête qu'on en rit encore. Mais qu'est-ce que voudrait raconter le film au bout du compte? On est quand même dans une insularité au carré, c'est-à-dire qu'ils sont dans une île sur une île. Quand ils vont sur l'île, ils ont l'impression d'être sur le continent. Effectivement, l'île est coupée du monde. Non seulement ça, mais il y a des patrouilles de toute la communauté européenne autour de l'île pour éviter que ces Anglais viennent propager leur maladie sur le vrai continent, hein, le nôtre, là où nous sommes. C'est évidemment un film sur le Brexit. Enfin, ça ne parle que de ça, sur comment ce fantasme de l'Angleterre de retourner à ce qu'elle était, mais ce qu'elle était quand, a abouti à cette séparation du reste de l'Europe et presque du reste du monde. Et donc, il y a plusieurs archaïsmes qui sont présents dans le film. Donc, on a une société qui est un peu comme celle des années 50, mais qui est aussi une société de l'éco-responsabilité montrée comme un cauchemar. C'est-à-dire que sans arrêt, il y a des petits panneaux qui vous disent « Attention, économisez l'eau, on n'en a pas beaucoup. Prenez garde à vos outils, à vos vêtements, parce que quand même, ça s'use. » Et pour nous faire bien comprendre que c'est aussi quelque chose encore plus archaïque qui serait vous parler gentiment du 17e ou du 18e, mais le film marque très clairement, en utilisant des images de vieux films anglais à la Ivan Noé, qu'on est réellement revenu dans un monde médiéval. Donc si on n'avait pas compris, ils utilisent des flèches, on nous met des plans de soldats moyenâgeux qui utilisent des flèches aussi. Alors bon, tout ça était une sorte de gloubi-boulga de tout et n'importe quoi. Pour nous raconter quoi, en gros, c'est que les mères, c'est bien, mais pour devenir un homme, il faut tuer la mère. Ce qui est l'originalité du film, c'est-à-dire on n'est plus à tuer le père, parce que le père, de toute façon, est complètement fallot, comme tous les personnages joués par Aaron Taylor Johnson dans sa filmographie.
Mais c'est bien, il en faut des hommes fallots dans les films.
Qui est l'incarnation même du fallot, mais je ne critique pas, je constate. Et en revanche, une fois qu'on a évacué le Brexit, il y a aussi la question de la reine mère, de la reine d'Angleterre. Plusieurs fois, on nous montre le portrait, parce que ça se passe à une époque dans une Angleterre qui a été coupée du monde il y a 28 ans, donc on a encore des portraits de la reine Elisabeth. Et en gros, la question c'est, quand il y a une mère qui perd la boule, comme c'était le cas, paix à son âme, de la reine Elisabeth, parce qu'elle était vieille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'euthanasier. Et on a deux meurtres de mère dans le film, mais qui sont montrés comme des choses complètement normales pour survivre en société.
Alors, mis à part l'euthanasie des mères...
C'est un thème original,
c'est vrai, mais sur le papier comme ça, on peut dire, pour un film qui s'adresse à un grand public, ça pourrait pas être si mal en vrai. Donc qu'est-ce qui rate? Pourquoi ça fonctionne pas?
Le problème, c'est que ces idées, là par exemple, en écoutant Antoine, en effet, je me dis ça pourrait être très intéressant.
Bah oui.
C'est marrant ce truc de l'Angleterre, ce recours en effet à un folklore de l'Angleterre d'avant. Donc par exemple, il y a une fête organisée pour le retour du fils.
Qui est le moment le plus terrifiant du film peut-être.
Qui est le moment le plus terrifiant du film et qui est, en effet, il est rentré chez lui, donc a priori ça va, puis finalement ça va pas du tout. Et c'est un moment de fête un peu paillard, avec des musiques folkloriques d'un ancien temps, et c'est là aussi où on voit d'ailleurs le portrait de la reine accroché au mur. C'est intéressant, ça pourrait être une sorte de matière pour renouveler quelque chose du film, alors je sais pas si c'est des zombies, mais de mort-vivant ou post-apocalyptique ou que sais-je, mais ça échoue parce que je pense que à la fois Danny Boyle et son scénariste, qui est donc Alex Garland, n'ont pas grand-chose à raconter de ce que c'est que ou la fin du monde, ou le renouvellement d'une société. Et ça, on le sait, parce que Alex Garland, il a fait un des films les pires, je pense, de cette année, qui s'appelait Civil War, c'était peut-être l'année dernière, qui était un film qui racontait, qui en plus s'inspirait aussi d'une situation contextuellement identifiable, c'est-à-dire l'Amérique de Trump, et qui dépeignait une sorte de guerre civile qui coupait les États-Unis en plein de morceaux, avec une photographe de guerre qui allait au-devant des fronts divers aux États-Unis et qui était aussi une espèce d'apocalypse un peu molle, film mouillé avec des effets en permanence. C'était extrêmement pénible et surtout, ça ne racontait rien. On en sortait en se disant, c'est incroyable, il y a plutôt des bonnes idées, il y a plutôt des belles images par ailleurs, parce que pour le coup, c'était pas un film laid comme l'est le film de Danny Boyle, mais ça ne dit rien, sur rien. Donc c'est difficile de trouver un véritable intérêt, parce que par ailleurs, l'action n'est pas intéressante non plus. Vous parliez tout à l'heure des effets qui sont ajoutés pour rien, les changements de cadre et tout. Il y a aussi un truc que fait Danny Boyle beaucoup, et moi ça m'obsédait, donc je voyais plus que ça, au bout d'un moment c'était extrêmement pénible, c'est qu'il nous montre toujours, il avance, il va en avant de ses personnages. Donc il nous montre toujours à l'avance, attend, quelques secondes avant que les personnages y soient, l'endroit où ils vont. Mm-hmm. Ce qui est un contresens absolu quand on veut faire un film d'aventure, qui est en plus un film qui aurait pu ressembler à un jeu vidéo, c'est-à-dire on est collé à un personnage, on tourne la tête avec lui, hop, on n'a pas vu le zombie, mais nous on voit tout le temps le zombie avant.
Bah oui,
donc
raté,
aucun
là,
intérêt. Oui, on sait qu'il va courir, on sait qu'il va aller plus vite que l'autre. Bon bah voilà.
Antoine Guillaume.
Oui, bah, quand on parle toujours de zombies, je crois je précisais,
oui, alors, voilà, que
précisément, ce ne sont pas vraiment des zombies.
Danny Boyle ne veut pas qu'on dise zombies.
On est dans ce néo-zombie qui est apparu au début des années 2000, où on en avait marre des zombies à la Romero qui avançaient très lentement, donc on s'est mis à les faire courir très vite. Mais en faisant ça, on a perdu non seulement toute la charge à la fois symbolique, métaphysique, politique de ce qu'est le zombie, que cette espèce de masse qui n'a plus de pensée, mais qui est d'autant plus terrifiante qu'elle fait masse. Là, c'est montré en fait comme des sortes de loups qui courent très vite, qui sont là encore nus, donc il y a quelque chose de très archaïque, il y a la peur de l'Homo sapiens d'être dévoré par Néandertal ou je ne sais quoi, mais ce n'est plus opérant du tout. C'est-à-dire qu'on peut les tuer sans problème, par exemple, jamais on ne le voit comme quelqu'un qui a été humain ou comme ce que nous pourrions devenir si nous tombions malades, c'est juste l'altérité absolue, c'est pour ça que ça devient un rite initiatique, y compris de tirer sur des, là encore, idées crétines, jamais on ne comprend d'où c'est possible que ça sorte sur ces zombies obèses qui rampent.
Oui, parce qu'il y en a certains qui sont lents, mais pareil, on ne sait pas pourquoi.
Qui mangent des vers de terre, qu'ils appellent les géants. Et le grand rite initiatique, c'est pendant qu'ils se traînent péniblement par terre, de leur décocher une flèche dans la gorge pour montrer qu'on est un homme. Bon, une fois qu'on montre ça, où est l'enjeu émotionnel ? C'est-à-dire qu'on ne tue qu'une grosse masse qui mange des vers. Les choses qui arrivent en vous hurlant dessus, bon ben voilà, on les tue, il n'y a aucun problème. Alors après, il a une idée, mais il la trouve tellement géniale qu'il nous la resserre trois fois. C'est-à-dire que la grande spécialité du mâle alpha, c'est de vous arracher la colonne vertébrale avec la tête.
C'est vrai que ça, la première fois qu'on le voit, c'est pas mal.
Ce qui donne une espèce de...
Bon appétit.
Ça s'aboutit à une sorte de squelette de ténia.
Un trophée avec un socle autour.
Zoïde géante, je ne sais pas trop quoi. Vrai. Mais alors, il trouve ça tellement génial qu'il nous le fait trois fois. Ouais. Voilà, j'étais déçu, j'attendais la quatrième fois sur le gamin, peut-être, mais non.
On va s'arrêter là, sur une envie de meurtre d'enfant. Bravo, 28 ans plus tard de Danny Boyle. Allez, c'est le moment de votre coup de cœur, Antoine Guillaume.
Oui, alors, il se trouve que Lucie Comeau en a déjà parlé ce matin, donc je vais essayer
d'être... Je vais surveiller tout ce que vous dites.
Au dixième aussi brillant qu'elle, sur ce film très étrange qui s'appelle Un rêve plus long que la nuit, j'ai découvert, mais j'ai ignoré complètement, que Niki de Saint-Phalle, prochainement hommagé au Grand Palais, dans une exposition du Centre Pompidou, hors les murs, avait aussi fait du cinéma. Elle a fait deux films, un qui avait été co-réalisé, qui s'appelait Daddy, où elle revenait de façon plus ou moins métaphorique sur des choses qu'elle a beaucoup racontées par la suite, qui est l'inceste qu'elle a subi enfant. Et là, ce film est très très étrange, Un rêve plus long que la nuit. C'est une sorte de... D'abord, c'est tourné en 16 mm, comme le film dont on va parler tout à l'heure. Ça tient à la fois de la réunion de copains, parce que c'est un film qui est fait non seulement, il y a Tinguely encore dans la ferme, il y a toute leur bande, Daniel Spoerry et autres, qui jouent une sorte de carnavalesque Alice au Pays des Merveilles, qui est déjà assez carnavalesque en soi, sur l'histoire d'une petite fille qui voudrait grandir trop vite, qui voudrait être adulte tout de suite, et qui va réaliser ce que c'est que le monde des adultes, qui n'est un monde qui n'est fait que de guerre, d'exploitation, de domination sexuelle et autres. Et c'est c'est presque indescriptible, en fait, tellement il y a du carton-pâte dedans, mais il y a aussi des œuvres d'art en permanence. C'est tourné dans le cyclope de Tinguely et Niki de Saint-Phalle, la maison incroyable qu'ils avaient construite à Milly-la-Forêt. Mmh. Et ben c'est dingo, voilà. Mais c'est sans arrêt, quand on regarde ça, on se demande mais est-ce que c'est de l'art, du lard ou du cochon ? Et c'est assez fascinant en même temps, parce qu'on imagine, moi, tout au long où je voyais ce film, j'essayais d'imaginer les conditions de réalisation autour, c'est-à-dire cette bande d'artistes qui se réunit en disant, bah, tiens, on va expliciter les rapports, par exemple, sur le viol comme arme de guerre, ce dont on parle beaucoup, et ben c'est figuré par des soudards avec des braquemars géants, décidément.
C'est la thématique du jour.
C'est le thème de l'émission.
C'est les sexes démesurés des hommes.
Qui explosent en pétards et en confettis. Vous avez des défilés de chars qui affrontent des phallus géants. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut voir qu'en 1976. On imagine très mal quelqu'un faire ça aujourd'hui. Et c'est assez, à la fois, là encore, fascinant et perturbant, bricolé et sublime en même temps.
Un rêve plus long que la nuit de Nikit Saint-Phal, qui est donc sorti en restauré, c'est ça, version restaurée ?
Oui, enfin version restaurée. Je ne sais même pas si le film avait eu une exploitation à l'époque.
À l'écran, sur écran, quoi. Ouais.
Je crois qu'il est sorti au cinéma, mais ouais. Peut-être juste sur
un ou deux écrans. C'est surgi du temps, comme ça. Ça ressemble aussi à des films un peu douteux de Jean Rollin qui se faisaient à l'époque, parce que c'est très sexuel aussi. Donc c'est une curiosité assez improbable, mais vraiment passionnante.
12h, 13h30. Les midis de culture. Marie Laborie.
On enchaîne avec Voyage au bord de la guerre, ce documentaire d'Antonin Peredjatko. Peredjatko, on le connaît plus pour ses fictions, La fille du 14 juillet ou La loi de la jungle, gentiment loufoque et politique. Mais il a tourné beaucoup de courts et moyens métrages, et souvent des docs, caméra 16 mm au point. Pour ce film qui sort aujourd'hui, c'est une caméra Bolex qui l'a embarqué dans un road movie en Ukraine, au bord de la guerre donc. L'outil implique de tourner des séquences de 3 minutes maximum et d'enregistrer le son. Par ailleurs, bref, un procédé qui crée une distance forcément avec l'urgence du terrain qu'il filme. Donnez-moi un avis rapide, Antoine Guillaume.
Ben, c'est un film d'actualité puisqu'il concerne la guerre en Ukraine, mais qui a l'intelligence d'être inactuel.
Lucille Comeau.
Oui, moi, je pense que précisément, il n'arrive ni à être inactuel ni à être actuel, et que toute la question de la distance est la question. Quoi.
Alors, on
pas
va
résolu.
On va écouter la bande-annonce de Voyage au bord de la guerre.
Je prends une caméra 16 mm. On met 3 minutes de pellicule. Je prends un micro que ma fille va tester.
Essaye, micro.
Nous allons traverser l'Europe pour entrer dans un pays en guerre. À la douane, 16 km de queue. Nous arrivons à Lviv, en Ukraine, à 80 km de la frontière polonaise. La guerre est partout. Sur les tablettes de chocolat, les affiches, le papier toilette, les pâtes d'amande.
Je suis Ella. Ella, est-ce que tu me comprends ?
Ella a publié un recueil de poètes ukrainiens. Il y a ce passage. Tout ce qu'il te reste maintenant, c'est une photo de famille avec des trous à la place des visages. Le soir, la vie continue. Comme l'alcool, des bidons d'essence apparaissent. Je me demande qui a eu assez d'humour pour écrire Boom. Sur le mur d'en face. Dans ce récit de guerre, c'est souvent l'envie de filmer le printemps qui l'emporte.
Voyage au bord de la guerre d'Antonin Peredjatko. Antoine Guillaume, qu'est-ce que ça produit justement ce procédé qu'il utilise, ce 16 mm, ce son-là qu'on a entendu très étrange et pas très vieillot quelque part?
Ben voilà, c'est un son qui a l'air assez suranné comme ça. C'est-à-dire qu'en regardant le film, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose où on a l'impression que c'est une sorte de Chris Marker des années 50-60 dans le ton qui va parler de la guerre d'aujourd'hui. Et de fait, c'est un projet extrêmement formaliste. Au début, on l'entend dire dans son projet pourquoi il va utiliser cette caméra 16 mm. Le son est volontairement un peu crachoteux comme ça. Et le ton est à la fois très suranné dans le commentaire, ironique, poétique, humoristique. Et tout d'un coup, il se prend des choses qu'il n'avait peut-être pas prévu de rencontrer. C'est un film qui s'appelle Voyage au bord de la guerre et qui précisément se passe au bord. En fait, ce sont deux voyages. Le premier a été fait au printemps 2022, deux mois après le début de la guerre à Lviv, donc à un endroit qui est assez reculé du front. Et puis neuf mois plus tard, il va à Kiev. Et là, tout d'un coup, il est pas complètement dedans, puisqu'il n'est pas là pour filmer des actes de guerre ou des bombes qui tombent, mais il va sans cesse chercher des traces, en fait. La première motivation qui est assez vite évacuée, c'est de retourner sur les traces de son propre grand-père, qui était parti d'Ukraine 100 ans auparavant, pendant la grande famine, l'Holodomor, déclenchée par Staline. Et il va se rendre compte, évidemment, tout de suite, très vite, sur place, que c'est une fausse bonne idée, puisqu'il ne reste plus rien de cette époque. Et puis, tout d'un coup, il rencontre des gens, surtout. Et c'est ces gens-là qu'il a envie de filmer, qui ont tous comme point commun d'être des artistes. La poétesse qu'on a entendue tout à l'heure, il y aura un directeur de théâtre qui racontera comment il a échappé aux soldats soviétiques. Et je dis soviétiques parce que c'est réellement des soldats soviétiques qui arrivent, et là encore c'est quelque chose de très de monstrueusement suranné, parce qu'il raconte comment, quand il était dans sa banlieue de Kiev, à Boutcha je crois, où ont lieu ces massacres, ce qu'il a vu arriver, c'était des soldats qui sortaient tout droit, mais de 1970-1980, qui réclamaient des VHS. Est-ce que vous n'avez pas des VHS à regarder ? C'est-à-dire, c'est de se dire qu'ils sont restés à cet âge-là, qu'ils sont surpris de découvrir des toilettes à l'intérieur des appartements, en disant « mais ça doit sentir monstrueusement mauvais quand vous faites vos besoins dans vos appartements », et qu'ils sont là pour voler des robinets, des fenêtres. C'est-à-dire quelque chose, c'est presque les hordes de contaminés qu'on a dans le film de Danny Boyle qui leur tombent dessus. C'est précisément cette distance-là qui est à la fois temporelle et distance par rapport à ce qui s'est passé, et qu'il ne peut pas aller filmer, qu'il ne veut sans doute pas aller filmer, je trouve qu'il rend ce film passionnant, parce qu'il y a cette béance, ces trous dont on a entendu parler aussi, qui est imagé régulièrement sur ces images d'enfants sur lesquelles on poinçonne des trous à la place des visages, et le film est plein de trous, et c'est sans doute ces trous-là qui sont les plus passionnants.
Lucille Comeau, on a peu de temps, je suis désolée, on a passé trop de temps sur les zombies tout à l'heure.
Oui, moi je pense que Pere Djatkov veut refaire quelque chose qu'il avait fait sur les gilets jaunes et qui fonctionnait, je pense, mieux. C'est-à-dire appliquer ce mode opérationnel entre la fantaisie et quelque chose de très nouvelle vague, donc de très monté et de très potentiellement donc troué sur un événement qu'on connaît, et l'arracher au tout venant de l'image médiatique. C'est ça qu'il veut faire. Moi, je pense que le problème, c'est qu'il ne le fait pas vraiment, et qu'il a quand même probablement une ambition de dire quelque chose de l'Ukraine aujourd'hui, et qu'il n'arrive pas à complètement s'éloigner de l'esthétique du reportage. Et d'ailleurs, il a beau faire du 16 mm, le son a beau être un peu désynchronisé, de fait, le régime principal de ce qu'on voit est ce qu'on a vu beaucoup, c'est-à-dire cadré sur des enfants avec leur couverture, des écoles, le témoignage face caméra d'artistes, ce qu'on a aussi beaucoup vu et beaucoup entendu, parce que beaucoup de médias se sont intéressés à cette question. Donc il échoue, à mon avis, à créer quelque chose de nouveau sur cette guerre-là, parce que la forme qu'il utilise ne suffit pas. Je pense que juste la texture de l'image, ça suffit pas à renouveler quelque chose, à renouveler un regard. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas une certaine forme de... pas d'opportunisme, parce que là, pour le coup, ce serait méchant, mais il y a une forme de désinvolture dans son projet. Je suis pas sûre qu'il sache exactement où il va. Cette histoire, par exemple, d'aller sur les pas de son grand-père et puis finalement d'abandonner l'idée, c'est à peu près le cas de toutes ses idées dans le film. Il nous dit qu'il va aller voir des artistes et parler surtout des artistes, mais en fait, il le fait pas vraiment. De la même manière que ces images où on trouve les photos et où on enlève les visages des gens, on comprend pas vraiment à quoi ça sert. Il y a une sorte d'inabouti dans ce film qui ne dure qu'une heure. Hein. Mm-hmm. Et vous voyez, là, on en a quand même pas mal parlé. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de motifs, il y a beaucoup d'idées. Par ailleurs, la voix off qu'on a entendue, moi, je la trouve assez pénible. C'est pas du tout la texture de la voix. Ça, à la limite, ça peut être assez intéressant et ça met en effet quelque chose à distance. Mais ce qu'il dit, sur le fond, c'est très grandiloquent. Il y a vraiment un lyrisme sur les atrocités de la guerre, avec des mots qu'on a entendus 50 000 fois. Et là, je pense qu'il y a aussi un échec de l'écriture. Il aurait peut-être fallu écrire quelque chose d'autre pour accompagner ces images et vraiment les sortir de la gang, disons, de l'image majoritaire. Quoi.
Oui, la difficulté de s'inscrire dans un monde où l'image est partout, le commentaire aussi partout. Je suis désolée, j'aurais adoré qu'on y passe plus de temps, mais c'est un peu tard maintenant. Voyage au bord de la guerre d'Antonin Pere Djatkov qui sort aujourd'hui, et il sera votre invité.
Samedi, on en saura plus.
Voilà, on en saura plus samedi. Lucille Comeau, on vous retrouve dès demain matin à 8h55 pour votre regard culturel sur France Culture. Toutes les références, toutes les infos sont sur la page des Midi de Culture.
écoutez France Culture.
Aujourd'hui, dans votre book club, place à un objet littéraire non identifié.
Marie Richeux.
Dans son dernier livre, Mika Biermann nous embarque dans un château en ruine où deux personnages fantasques forment un duo absurde. L'auteur mêle à cette aventure sa propre histoire familiale pour livrer en creux son autoportrait. Il est notre invité.
Le book club, du lundi au vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Ah, les fanfares, célébration du bonheur d'être ensemble, de parader avec tambours et trompettes. Longtemps jugées ringardes ou guindées, les voilà revigorées et dépoussiérées. Elles ont le vent en poupe.
Les parents avec les enfants ont fait partie des rangs de la banda, et donc c'est vrai que la musique occupe une grande, grande place dans notre village.
LSD, la série documentaire, Fanfares, une histoire en marche par Jérôme Sandlars, réalisation Benjamin Hu, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Bientôt midi et demi, vous êtes sur France Culture. À suivre après le journal, le point culture de Marie Sorbier, ce sera à 12h50. Et puis à 13h, je recevrai le plasticien Wolfgang Tillmans. Mais d'abord, on fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on débutera ce journal avec les derniers développements de cette sixième nuit consécutive de guerre ouverte entre Israël et l'Iran. On s'interrogera également sur les ambiguïtés du président américain. Va-t-il entraîner son pays dans un nouveau conflit au Moyen-Orient? Et puis on verra combien le positionnement des Européens vis-à-vis de cette guerre mériterait lui aussi quelques éclaircissements. L'actualité en France, c'est tout d'abord ce remake d'Un jour sans fin. Pour le conclave des retraites, on tâchera par ailleurs de décrypter un partenariat totalement inédit, TF1, qui débarquera sur Netflix en 2026. Et puis avec notre invité, on parlera de cette toute première édition de la semaine consacrée à la musique française. Qu'il semble décidément difficile de ne pas admettre que notre monde devient chaque jour un peu plus fou. Hier, passant d'un extrême à l'autre, Donald Trump a envoyé une salve de messages belliqueux à l'adresse de l'Iran, quitte à renier sa propre prétention à incarner l'art de la négociation, jusqu'à se muer en une sorte de cavalier de l'apocalypse. Alors avant de chercher à savoir si le locataire de la Maison Blanche est effectivement susceptible d'engager son pays dans la guerre entre Israël et l'Iran, voyons déjà comment s'est déroulée cette sixième nuit d'affrontement entre l'État hébreu et la République islamique. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
À l'évidence, même si l'armée iranienne dit avoir tiré des missiles balistiques hypersoniques, sa riposte aérienne a malgré tout baissé d'intensité. À l'inverse, en revanche, plus d'une cinquantaine d'avions de combat israéliens ont, eux, bombardé une installation de production de centrifugeuses à Téhéran, ainsi que plusieurs sites de fabrication d'armes.
50 avions de combat mobilisés en effet cette nuit pour frapper au total une vingtaine de cibles dans la capitale iranienne, notamment ce site de production de centrifugeuses. Elles permettent, les centrifugeuses, d'enrichir la matière nucléaire à des niveaux proches d'un seuil militaire. Le site d'enrichissement de Natanz, c'est l'une des installations clés du programme nucléaire iranien, a été frappé à plusieurs reprises. Sa partie en surface est détruite, mais des dégâts ont également été infligés dans sa partie souterraine. Les sites nucléaires d'Ispahan dans le centre de l'Iran sont aussi toujours pris pour cible. Et en effet, l'armée israélienne s'emploie dans le même temps à détruire les capacités offensives de l'Iran. Des sites produisant des matières premières, des composants et des systèmes de fabrication de missiles sol-sol ont donc aussi été ciblés. De son côté, l'Iran a tiré de nouvelles salves de missiles vers le territoire hébreu sans faire de victimes. L'armée iranienne qui annonce, vous le disiez, avoir fait usage de missiles hypersoniques de portée intermédiaire, censés être beaucoup plus difficiles à contrer, et qui a abattu au moins un drone israélien sur son territoire. Le porte-parole de la police iranienne dit que ce sont 14 drones qui ont été interceptés et des ateliers de production de drones identifiés. L'armée de l'État hébreu reconnaît la perte de l'un de ces drones, tout en assurant qu'il n'y a aucun risque de fuite d'informations.
Merci Marie-Pierre Véraud. Alors j'évoquais en introduction le ton de plus en plus martial de Donald Trump, au point que nombreux sont ceux à juger que les preuves s'accumuleraient quant à la possibilité que les États-Unis se joignent à la campagne israélienne contre l'Iran, ce qui constituerait évidemment un revirement radical par rapport à la confiance affichée il y a encore deux semaines à peine dans la possible signature d'un accord nucléaire entre Washington et Téhéran. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Thomas.
En réalité, rien n'est encore très clair quant aux intentions du président américain. À Washington, les faucons sont bien entendu favorables à la guerre, sauf que plusieurs figures de la base trumpiste, Frédéric, refuse de se faire embarquer dans un nouvel imbroglio militaire au Moyen-Orient.
Oui, la base trumpiste qui a encore en souvenir les promesses de campagne. « Avec moi, il n'y aura pas de nouvelle guerre », disait Donald Trump. Alors le vocabulaire belliqueux du président hérisse une partie de cette base. Par exemple, Steve Bannon, l'ancienne éminence grise du président, les deux hommes sont fâchés, mais Steve Bannon conserve une influence au sein de la droite dure américaine, notamment grâce à ses podcasts. Et bien justement, dans son podcast hier, Bannon a mis en garde contre un scénario à l'irakienne, une guerre soi-disant facile, en réalité un bourbier sans fin.
Rappelez-vous du 19 mars 2003, ce grand Big Bang. Ensuite, ça a duré pendant quoi? 10, 15, 20 ans? Même chose pour la guerre en Afghanistan. 20 ans avec beaucoup de mensonges qui vous ont été racontés, des mensonges éhontés.
Autre déçu parmi les Trumpistes, Tucker Carlson, cet ancien présentateur sur la chaîne ultra-conservatrice Fox News, désormais influenceur de droite aux accents parfois complotistes. Carlson vient de publier l'extrait d'une interview qui illustre, selon lui, l'amateurisme des Trumpistes. Dans cet extrait, il interroge le sénateur Ted Cruz. Combien l'Iran compte-t-il d'habitants? Aucune idée, répond ce sénateur proche de Donald Trump.
How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple?
Et donc, vous ne savez pas combien il y a d'habitants dans un pays que vous voulez renverser, s'indigne Tucker Carlson. Une indignation qui ne plaît pas à Donald Trump. Évidemment, il qualifie d'excentrique l'ancien journaliste avec lequel il était pourtant dans les meilleurs termes. Voilà aussi ce qui fait hésiter le président américain en se lançant dans une intervention militaire en Iran. Il contredirait ses promesses et décevrait une partie de ses troupes.
Merci Frédéric Saïs. Alors si Donald Trump s'évertue à lancer des signaux tous plus contradictoires les uns que les autres, côté européen, cette fois-ci difficile là aussi de distinguer une stratégie parfaitement claire. Il faut dire que plusieurs pays avaient commencé à prendre leur distance avec Israël en raison de la guerre à Gaza, sauf que le déclenchement du conflit entre Tel Aviv et Téhéran a conduit certains à se lancer dans un nouveau numéro d'équilibriste, de sorte que l'Union européenne à présent divisée a du mal à se faire entendre. Les précisions depuis Bruxelles de Fabien Cazot.
La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, l'a encore dit hier soir dans l'enceinte du Parlement européen. Selon elle, c'est la diplomatie qui permettra de résoudre le plus efficacement possible le problème du nucléaire iranien. Une forme de statu quo devenu inaudible depuis qu'Israël a décidé de passer à la vitesse supérieure en bombardant les principales installations du programme nucléaire iranien, alors que Donald Trump appelle en même temps Téhéran à une capitulation sans condition, le partage d'options militaires entre Israël et les États-Unis est si intense qu'il ne laisse aucune place aux Européens. D'autant que ces derniers se montrent divisés, que ce soit au sein du Parlement européen où les principales forces politiques se déchirent entre ceux qui saluent le courage d'Israël de s'en prendre à l'Iran et ceux qui dénoncent au contraire la logique va-t-en-guerre de l'État hébreu. Même les chefs d'État et de gouvernement qui se retrouveront en sommet européen la semaine prochaine ne semblent pas alignés. L'Allemand Friedrich Merz estimant qu'Israël fait le sale boulot pour le compte de l'ensemble de la communauté internationale. Quand Emmanuel Macron estime de son côté qu'un changement de régime en Iran serait synonyme de chaos.
Et pendant ce temps, la guerre lancée par Israël contre l'Iran n'a en rien modifié l'enfer des Gazaouis.
Oui, puisque c'est ainsi que se définit, mois après mois, le quotidien des Palestiniens. Bombardements indiscriminés, blocus alimentaires et sanitaires. Pour la troisième fois en moins d'une semaine, les services internet et de téléphonie ont été coupés hier, dans le centre et le sud de l'enclave, à la suite d'une attaque que l'autorité palestinienne impute à l'État hébreu. Quant à la défense civile de la bande de Gaza, elle accuse les forces israéliennes d'avoir tué plus de 50 personnes rassemblées près d'un centre de distribution de nourriture. Avec l'espoir, là aussi, que les opinions ne s'accommodent jamais de la banalité du mal en détournant le regard, les autorités de Kiev ont fait état hier de multiples frappes meurtrières lancées par l'armée du Kremlin et en particulier sur la capitale, l'une des pires depuis le début de l'invasion russe, sauf que Vladimir Poutine peut lui toujours compter sur le soutien, disons, tacite de Donald Trump. Hier, non seulement les États-Unis se sont opposés à une déclaration forte du G7 sur l'Ukraine qui condamnerait la Russie, mais la veille, le président américain avait déjà quitté le sommet avant sa rencontre prévu avec le président Zelensky.
La réserve fédérale américaine devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés aujourd'hui.
Et ce pour la quatrième fois consécutive depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, un statu quo synonyme de l'immobilité prudente dont fait preuve l'institution face au terrain glissant des droits de douane et des crises géopolitiques, ce qui ne devrait pas manquer d'alimenter en revanche la frustration de Donald Trump, lequel réclame sur tous les tons une forte détente des taux directeurs afin de réduire les coûts d'emprunt des particuliers et des entreprises.
Midi passé de 38. 58 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Énième report de la date butoir et surtout nouvel aveu d'échec hier après 3 mois et demi de concertation et au terme d'une ultime journée de discussion laborieuse, le conclave des retraites qui devait s'achever a finalement obtenu une journée de discussion supplémentaire. Ce sera le 23 juin, sauf que parmi les partenaires sociaux encore autour de la table, plusieurs hésitent déjà à s'y rendre. En l'occurrence, les discussions entre syndicats d'un côté et patronat de l'autre achoppent toujours sur la prise en compte de la pénibilité et de l'usure, de même que sur l'abaissement à 66 ans au lieu de 67 de l'âge de départ sans décote. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour Thomas.
Autant dire qu'on est encore très loin, Wafia, de l'accord que Matignon avait promis de soumettre au Parlement.
Oui, dans ce texte qui sera proposé aux organisations patronales et syndicales, Jean-Jacques Marette, le médiateur, devrait évoquer les mesures en faveur des femmes. Selon les partenaires sociaux, encore hier soir, c'est le sujet le plus consensuel. Pour celles ayant eu des enfants, leur pension de retraite serait calculée sur les 23 ou 24 meilleures années, un chiffre qui reste à préciser, contre 25 aujourd'hui. Sur la pénibilité, d'après la CFDT, le patronat accepterait l'instauration d'un nouveau compte pénibilité, moins avantageux que celui qui existait avant 2017 pour les salariés, mais qui permettrait à certains d'entre eux un départ anticipé en retraite. Sur l'âge de départ à 67 ans, sans perte d'argent, pour les personnes qui n'ont pas cotisé pour tout leur trimestre, le texte propose 66 ans et demi contre 67 actuellement. En contrepartie, le dispositif des carrières longues, serait restreint.
Patrick Martin, donc le dirigeant du MEDEF, disait ce matin son scepticisme quant à l'issue de ce conclave. Est-ce que le texte qui sera présenté lundi, Wafia, peut convenir au patronat?
Alors, pour le MEDEF, se pose d'abord la question de sa présence lors de cette dernière journée de discussion. Ensuite, dès le début du conclave, Patrick Martin, comme François Bayrou, ont clairement refusé tout débat sur l'âge de départ à 64 ans. On aurait donc pu s'attendre à des efforts de leur part sur la pénibilité ou s'agissant du départ à 66 ans sans décote. Mais l'organisation patronale répond sur les deux sujets. Aucune nouvelle dépense ne sera supportée par les entreprises. Chez la CPME, l'organisation des petites et moyennes entreprises, il y a un réel effort pour y arriver. L'organisation patronale minoritaire veut donner la preuve de sa capacité et de la capacité des partenaires sociaux à reprendre la main sur la gestion du régime de retraite, un enjeu de taille.
Merci Wafia Kenich. Les députés ont finalement adopté hier le projet de loi dit de simplification à l'issue de 3 mois d'un examen totalement décousu par de multiples reports. Là encore, et malgré la division du camp gouvernemental, le texte a été adopté par la droite, le centre et l'extrême droite, rejoint par les 2/3 des élus macronistes qui auront laissé planer le suspense jusqu'au bout. Ce vote entérine ainsi plusieurs reculs, en particulier la suppression pure et simple des zones à faible émission contre la pollution de l'air, de même que une franche régression du dispositif de lutte contre l'artificialisation des sols.
On l'a appris ce matin et c'est une première mondiale.
TF1 débarquera sur Netflix à partir de l'été 2026. En clair, la plateforme américaine va diffuser les chaînes du groupe en vertu d'un partenariat inédit. Fiona Mogadam, bonjour.
Bonjour.
Alors, on ne connaît pour l'heure ni la durée ni le montant de cet accord de distribution. Qu'est-ce qui justifie, Fiona, que le géant du streaming donc ouvre ainsi sa plateforme à un autre opérateur?
C'est un accord pour le moins surprenant. Il y a bien eu des partenariats entre TF1 et Netflix ces dernières années, mais jusqu'ici, il s'agissait de coproductions de séries comme la série de télé-réalité L'Agence ou encore Les Combattantes avec Audrey Fleurot, diffusée en 2022. C'est donc la première fois que Netflix ouvre sa plateforme à un autre opérateur. Tout le contenu de TF1 sera disponible pour les abonnés Netflix en France. L'an dernier, TF1 a pourtant lancé TF1+, sa plateforme de streaming gratuite, et ambitionné d'en faire la première en France et dans les pays francophones. Elle reste au centre de notre stratégie, affirme aujourd'hui Rodolphe Belmer, le PDG de TF1, qui estime que cette alliance avec Netflix permettra au programme de TF1, de la chaîne, d'atteindre des audiences inégalées. Netflix compte plus de 10 millions d'abonnés en France. C'est donc un distributeur de plus pour la chaîne privée qui peut déjà compter sur les box des 4 opérateurs téléphoniques et Canal+. Pour Netflix, ce nouveau partenariat lui permettra d'acquérir des contenus jugés complémentaires, notamment des émissions en direct, Impact, Koh-Lanta ou The Voice par exemple, et du sport, domaine dans lequel la plateforme est aujourd'hui peu présente, mais qu'elle est en train de développer d'après Greg Peters, l'un des responsables de Netflix. Ce n'est pas la première fois qu'une chaîne privée s'associe avec une plateforme. Canal+ le propose depuis quelques années avec des partenariats avec Apple TV+, Paramount, HBO Max, ainsi que Netflix et TF1. Donc.
Merci Fiona Mogadam.
C'était un souhait du président Emmanuel Macron.
La création d'une semaine entière dédiée à la promotion de la richesse musicale française sous toutes ses formes à travers de multiples manifestations, ateliers, conférences et bien sûr concerts en amont de la fête de la musique et en bon anglais donc au pays de Bizet et Ferré, ça donne la France Music Week. Alors cette première édition a débuté lundi, elle est portée par le ministère de la Culture, pilotée par le CNM, le Centre National de la Musique. Qu'en pensent les premiers intéressés? Comprenez les professionnels de l'industrie du secteur. Louis-Valentin Lopez a posé la question. Aurélie Andouche, elle dirige le syndicat de la filière des musiques actuelles. Elle est aujourd'hui l'invitée de la rédaction.
Bonjour Aurélie Andouche.
Bonjour.
Alors vous attendiez des annonces concrètes lors de cette France Music Week. Rachida Dati n'a pas perdu de temps. Elle a annoncé lundi un plan de financement des entreprises de la filière musicale. On parle quand même de 500 millions d'euros sur 5 ans à travers la Banque publique d'investissement. Est-ce que c'est une annonce qui va dans le bon sens pour vous?
En tout cas, c'est toujours un plaisir et puis une bonne chose d'avoir des annonces positives pour la filière musicale, évidemment, qu'on représente. En revanche, ces 500 millions d'euros, il va falloir qu'on regarde exactement de quoi il s'agit. À l'heure qu'il est, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il recouvre concrètement. Ce qu'on attend avant tout, c'est que le président de la République ou le Premier ministre annoncent d'ici la fin de semaine le fait que la redistribution, le financement redistributif au CNM soit bien conforté et on attend ces annonces d'ici la fin de semaine.
Alors nous, on y reviendra d'ici la fin de cette interview. Je vous propose d'abord de revenir peut-être sur cette France Music Week qui se déroule toute la semaine. On parle d'une cinquantaine de manifestations labellisées, des concerts, résidences, le tapis rouge aussi déroulé aux acteurs de la tech, aux labels. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cette France Music Week au syndicat des musiques actuelles?
Alors, on attend de cette opération qui a été souhaitée par le président de la République qu'il valorise en fait l'ensemble de la filière des musiques actuelles et dans toute sa diversité. Effectivement, vous l'avez dit, on parle de tech, on parle beaucoup d'industrie musicale, c'est un terme d'ailleurs qui est assez assumé par le gouvernement et par la ministre. On attend aussi que l'ensemble de la filière musicale soit valorisée. Effectivement, peut-être ce qu'on peut regretter au SMA, c'est que ça soit un événement qui soit quand même assez parisien et puis assez orienté sur l'industrie.
Avec des partenaires hétéroclites, hein. J'ai regardé un peu la liste, on a YouTube, on a le Louvre, on a France Télé, Radio France aussi, EDF, mais aussi Renault, Coca-Cola. Est-ce que le risque, c'est pas que ça fasse un peu vitrine promotionnelle pour tous ces partenaires qui vont plus se vendre et que la musique passe un peu au second plan?
C'est sûr qu'en termes de partenaires, il y a quelques partenaires qui nous interrogent, surtout qu'on a quand même eu, en termes de souveraineté hein, dans notre filière, une filière française qui est quand même d'excellent niveau et peut-être qu'on aurait pu aussi plus la valoriser, plus que de valoriser des acteurs extra-européens sans faire de chauvinisme. Mais voilà, on regrette un peu effectivement que certains ne soient pas mis plus en avant. Et on a l'impression qu'on donne aussi beaucoup de place en fait à des acteurs, notamment américains. Ce qui se passe aux États-Unis.
D'ailleurs, on dit France Music Week à l'anglaise. Hein, ils ont choisi un titre anglais, c'est pas un hasard.
Exactement. Est-ce que ce qui se passe aux États-Unis est un futur désirable pour la filière musicale française? Ça n'est pas ce que nous revendiquons, en tout cas, de notre point de vue. Et voilà, on se dit que peut-être il y a aussi tant des entreprises que des acteurs français qu'on aurait pu mieux valoriser dans le cadre de cette semaine.
Vous évoquiez déjà des points qui vous préoccupaient particulièrement en début d'interview. Il y a beaucoup de sujets brûlants en ce moment dans l'industrie, pour reprendre le terme musical. L'intelligence artificielle, les menaces sur les droits d'auteur, les inégalités de partage de valeur dans le streaming, les festivals qui peinent pour certains, on l'a vu, à sortir la tête de l'eau. C'est quoi l'urgence pour vous?
Alors l'urgence, en fait, quand on a envie de valoriser la filière musicale française, c'est d'assurer sa pérennité. En fait, tout simplement, si le président de la République a voulu cet événement, l'idée, c'est de se dire que dans 10 ans, dans 20 ans, il faut toujours que cette filière, elle soit forte, qu'elle soit présente. L'année dernière, la moitié, 48% des festivals pour être exact, ont fini leur édition en déficit. Le ministère de la Culture dit aussi que 40% des scènes de musique actuelles ont fini leur exercice 2024 en déficit. Donc oui, il y a urgence.
Avec la France Music Week, la France peut devenir le premier pays producteur de musique. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Rachida Dati dans une interview au Figaro la semaine dernière. Est-ce que vous y croyez ?
Bah, en tout cas, quand on voit la santé de notre cinéma, c'est aussi grâce à des mécanismes redistributifs qui ont été posés en 1946 au Centre National du Cinéma, au CNC. On a la chance dans la musique de bénéficier d'une redistribution assez similaire hein, avec notre CNM, notre Centre National de la Musique, qui est beaucoup plus jeune, hein, qui date de 2020. Et en fait, ce qu'on attend, c'est que, comme dans le cinéma, la redistribution joue à plein. Aujourd'hui, en France, on a des blockbusters qui vont financer de l'art et essai. Et nous, ce qu'on attend dans la musique, c'est d'avoir cette même force de frappe en termes de redistribution, d'avoir certes des grandes jauges dans des arénas, dans des stades, et puis par ailleurs d'avoir des tournées qui vont pouvoir jouer en milieu rural, dans des plus petites salles, dans des SMAC, dans des cafés-concerts, d'avoir de la possibilité de soutenir de nouveaux artistes qui vont émerger, qui comme Zao Zagazan vont pouvoir commencer dans une SMAC avec 40-50 payants et demain aller à l'international. Donc ce qu'on attend, c'est que le phénomène de redistribution joue à plein comme dans le cinéma, et aujourd'hui comme les taxes au CNM sont plafonnées, ça ne fonctionne pas et c'est ce qu'on attend concrètement comme attente cette semaine.
Merci Aurélie Andouche d'avoir répondu à nos questions sur France Culture. Je rappelle que vous êtes directrice du SMA, le syndicat des musiques actuelles. Bonne journée à vous.
Merci.
Et merci également à vous, Louis-Valentin Lopez. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Partout ensoleillé, même si quelques nuages orageux pourront se former en haute montagne. Quant aux températures, elles seront comprises entre 18 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.
Merci Thomas Cluzel et on se retrouve demain.
À demain.
Les midis de culture, ne bougez pas, ça continue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. À 13h, comme promis, je discuterai avec le plasticien Wolfgang Tillmans. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour à tous et bonjour Marie. Le collectif pour les littératures en langue régionale à l'école appelle à intégrer dans les programmes scolaires les grandes œuvres écrites en langue dite régionale. Un manifeste littéraire, politique et pédagogique pour réconcilier l'école avec la diversité culturelle du pays, salué notamment par Amine Mahal. Alouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Sensibiliser professeurs et élèves aux œuvres en langue régionale, c'est le dossier du Point Culture du jour. Michel Feltin-Palas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'Express et membre du collectif pour les littératures en langue régionale. Vous avez lancé avec ce collectif une initiative qui vise à proposer un corpus de textes aux professeurs de français pour les sensibiliser à la richesse de ces littératures au pluriel. On y reviendra, c'est important. Alors d'abord, comment s'est constitué ce collectif et quelle urgence vouliez-vous mettre en lumière ?
Écoutez, nous sommes frappés régulièrement par des attaques qui sont dressées contre les langues dites régionales. La dernière en date, c'est Emmanuel Macron qui, lors de la présentation de la dernière édition du dictionnaire de l'Académie française, a eu cette phrase. Il a dit « Les langues régionales sont un instrument de division de la nation ». Et pour nous, les langues régionales ne sont pas un instrument de division de la nation, mais font partie de la richesse de la nation. Et nous souhaiterions le montrer en introduisant des littératures en langue régionales qui sont nombreuses, qui sont riches, qui existent depuis plusieurs siècles dans différentes langues de France, de les introduire dans l'éducation nationale de telle sorte que les enfants français sachent qu'il existe des auteurs français qui ont écrit dans d'autres langues de France que le français, cela depuis des siècles. D'une certaine manière, on apprend, et c'est très bien aux enfants français qu'on apprend à étudier, je ne sais pas, Shakespeare ou Kafka, hein, des auteurs étrangers. Et bien de la même manière, on pourrait étudier un auteur comme Frédéric Mistral, qui a été prix Nobel de littérature pour une œuvre écrite en provençal. Et ça, on ne le sait pas. Voilà.
Mais alors, que répondez-vous aux critiques qui justement soulèvent que cette langue française unifie le peuple, ce qui est en effet le cas, hein, mais que les langues régionales le partitionnent ? Comment on répond à ce mouvement de pensée-là ?
Écoutez, c'est confondre l'unité et l'uniformité. La France est riche de sa diversité. On a une diversité de paysages, d'architecture, de gastronomie. Il ne viendrait à l'idée de personne d'uniformiser les gastronomies, les paysages, etc. Bah, de la même manière, que le français soit la langue commune, c'est une très bonne chose et ça assure notre cohésion nationale. Mais le français ne doit pas devenir une langue unique. Si on faisait un parallèle en Europe, si vous voulez, c'est comme si on disait, voilà, pour unifier l'Europe, il faut imposer partout la même langue et détruire les autres langues. Imaginons qu'on fasse ça avec l'anglais et qu'on dise aux Français à partir de la semaine prochaine, tout est en anglais partout, nos écoles, nos entreprises, nos administrations, les Français le refuseraient et ils auraient raison parce qu'ils aiment la diversité. Eh bien, c'est la même chose au sein du territoire français. Le français langue commune, oui. Le français langue unique, non.
Alors, j'évoquais ce corpus hein, que vous proposez avec les autres membres du collectif. Comment il a été constitué ce corpus ? Qui est-ce qu'on retrouve à l'intérieur ?
Alors, forcément, il y a une part de subjectivité. L'idée a été de faire un corpus relativement court. Il y a 32 textes et 13 langues pour l'instant, aussi bien de métropole que d'outre-mer. Hein. C'est vraiment une démarche très ouverte qui vise à montrer la richesse des littératures françaises. Donc, on va retrouver Frédéric Mistral, hein, prix Nobel de littérature pour une œuvre en provençal. C'est quand même un symbole extraordinaire. On va retrouver, par exemple, Pierre-Jacques Elias pour une œuvre en breton, Raphaël Confiant pour une œuvre en créole martiniquais. Et puis, si je vous donnais d'autres noms, il est probable que vous ne les connaissiez pas, si je vous parle de Marcella Delpastre ou de Henri Hirault ou d'Alexandre Desrousseaux, mais c'est justement le problème, c'est que ces auteurs qui existent ne sont pas étudiés, ils ont été invisibilisés d'une certaine manière, et le but c'est de montrer cette richesse de ces littératures.
Alors justement, l'idée c'est bien de montrer la richesse de la littérature et pas de donner des cours en langue régionale, ça c'est une autre question.
Voilà, vous avez tout à fait raison de le préciser, il ne s'agit pas de donner des cours en langue régionale, il s'agit d'étudier en français des œuvres qui ont été écrites dans d'autres langues de France que le français, comme on le fait, je le disais tout à l'heure, avec Shakespeare ou avec Kafka. Quand on étudie Kafka, on ne prend pas des cours de tchèque, mais on apprend à découvrir un auteur tchèque. Ou si on lit Dostoïevski, on n'apprend pas le russe, mais un auteur russe. Bien, de la même manière, il s'agirait pour les enfants français de savoir qu'il y a des auteurs alsaciens, corses, picards, etc. Mais ne pas faire des cours de langue, hein, c'est différent. Et c'est vraiment une démarche d'ouverture, hein, parce que ce qui serait de l'enfermement, si vous voulez, ce serait de réserver la littérature basque uniquement aux enfants qui apprennent le basque. De réserver la littérature corse uniquement aux enfants qui apprennent le corse. Là, il s'agit vraiment, je crois, pour un petit Parisien, par exemple, d'étudier un auteur picard, corse ou basque. Voilà, c'est vraiment de l'ouverture sur l'altérité française.
Alors, on parle des enfants qui pourraient bénéficier de cette diversité et de cette richesse des littératures de France, mais vous parliez aussi de sensibiliser les professeurs. Est-ce à dire que vous avez l'impression qu'il y a un manque de connaissances, de formation et de culture autour de ces auteurs-là ?
Oui, bien sûr, ça n'est pas du tout la faute des enseignants. Ils ne sont pas sensibilisés au cours de leur formation à ces littératures. À ma connaissance, je crois que le corpus que nous avons constitué est une première historique. Ça n'existe pas. Malheureusement, en France, on est même allé plus loin. Vous savez peut-être que les troubadours qui écrivaient en langue d'oc dominaient l'Europe littéraire au XIIe et XIIIe siècle. Les troubadours sont étudiés dans de nombreux établissements scolaires à travers l'Europe. Ils ne le sont pas en France. Et pire, j'ai découvert il y a quelques années un éditeur scolaire qui présentait l'œuvre des troubadours comme étant écrite en français du Sud. C'est vous dire à quel point la méconnaissance confine parfois à la propagande. Enfin là, c'est quand même parce que c'est quand même écrit par des agrégés de lettres, normalement, qui doivent le savoir, ça. Donc vous voyez, on part de très très loin en France, et donc notre objectif, c'est de réconcilier la France avec sa diversité, et au-delà des littératures, si vous voulez, c'est de redonner de la dignité à ces langues qui ont été souvent présentées comme des patois, etc., comme des... Il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de vocabulaire, non, les linguistes le savent. Toutes les langues sont des langues. Les langues de France ne sont pas devenues langues officielles en dehors du français, mais ça ne fait pas de ces langues non officielles, des sous-langues, des patois ou des dialectes. Ce sont des langues qui ne sont pas officielles. C'est tout. Voilà. Et donc, à travers la littérature, il s'agit bien de redonner de la dignité à ces langues et derrière les langues à leurs locuteurs, hein, puisque souvent le mépris des langues s'accompagne d'un mépris des locuteurs.
Alors vous avez envoyé cette initiative au Premier ministre, à la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, et vous venez de recevoir un soutien alors, de l'Académie française, ce n'est pas rien, hein, via Amin Maalouf. Est-ce que ça vous a surpris, ce soutien, et qu'est-ce qu'il représente ?
Écoutez, c'est extraordinaire au sens premier du terme. Hein. Alors, soyons précis, c'est Amin Maalouf à titre personnel qui soutient l'initiative du collectif, mais il se trouve quand même qu'Amin Maalouf est secrétaire perpétuel de l'Académie française. C'est extraordinaire parce que, à ma connaissance, c'est la première fois dans l'histoire de l'Académie, qui a quand même quelques 400 ans, que l'Académie française prend une initiative en faveur des autres langues de France. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Ça tient évidemment à la personnalité d'Amin Maalouf, hein, qui, comme on le sait, est franco-libanais, donc il sait ce qu'est une double culture, et il sait que les cultures s'additionnent, s'enrichissent mutuellement, ne se confrontent pas. Hein. Quand nous défendons les littératures en langue régionale, on n'attaque pas du tout le français. Hein. Aimer les langues régionales, ça n'est pas attaquer le français, c'est aimer la diversité culturelle. Hein. Et Amin Maalouf, il comprend parfaitement ça, et il estime qu'effectivement, il serait normal, naturel, que les enfants de France================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ connaissent mieux les troubadours que les enfants de Bulgarie, par exemple, où les troubadours sont enseignés. Et à moi aussi, je suis un peu partisan, mais ça me paraît être du bon sens, d'une certaine manière.
Pas de réponse encore de la part du Premier ministre ou de l'Éducation nationale ?
C'est normal. Nous avons demandé un rendez-vous à Elisabeth Borne, d'une part, et à François Bayrou, d'autre part, dont on sait qu'il est, lui, particulièrement favorable aux langues régionales, et c'est assez exceptionnel dans le personnel politique français. Voilà, mais nous leur avons écrit la semaine dernière, nous leur avons envoyé ce corpus que nous avons intitulé « Florilangue », et nous espérons avoir une réponse dans quelques semaines. Voilà, mais il faut leur laisser le temps, ils sont des personnes occupées, c'est bien normal, ça n'est pas urgentissime, mais on espère être reçus. Et le soutien d'Amin Malouf, dans ce cadre-là, peut être décisif.
Bien, on guettera les réponses éventuelles. Merci beaucoup, Michel Feltin-Palas. Je rappelle que sur le site de L'Express, on peut retrouver votre lettre hebdomadaire qui s'appelle « Sur le bout des langues ». Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, qui est très éclectique, Petit Ours Brun fête ses 50 ans.
Mais oui, mais il est le héros le plus ancien de Bayard Presse, l'icône du magazine Pomme d'Api, cultive la lenteur à rebours d'un monde de vitesse et peuplé d'écrans. Marie Aubinet, son autrice, se déclare étonnée de sa longévité et de son succès. 3 millions de magazines et 800 000 livres sont vendus chaque année. Pour son anniversaire, Petit Ours Brun a droit à une déclinaison audio de ses aventures dans une dizaine de langues, dont l'arabe et le chinois. Un numéro collector avec 50 histoires depuis 1975 est en kiosque et un nouveau livre sortira en octobre.
Et pour finir, Marie, le 42e marché de la poésie commence aujourd'hui.
Sont attendus plus de 400 éditeurs, revues de poésie et de création littéraire qui viennent d'Île-de-France, de la France entière, de pays européens et d'autres continents. Son président d'honneur cette année, Éric Ruff, directeur de la Comédie française. Alors, place Saint-Sulpice à Paris jusqu'à dimanche, vont être organisées des tables rondes, des rencontres, des lectures et près de 400 signatures. La poésie palestinienne sera invitée d'honneur. Une dizaine de poètes palestiniens sont présents durant les 5 jours du marché et bien sûr, comme d'habitude, le programme complet du marché de la poésie est sur la page du Point Culture.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain.